à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blau au micro. En ce jeudi 13 novembre, voilà, on reprend l'émission aujourd'hui. Là, qu'est-ce que vous voulez, c'est les vacances qui se sont prolongées comme ça. Les gens qui ont écouté la dernière émission, voilà, en début d'été, ils vont se dire, mais Fulgence, est-ce qu'il est parti pour de bon? Il nous revient, non, il est de retour avec... deux invités pour cette première édition, d'ailleurs, de l'émission de la suite de cette saison. Je me suis dit pourquoi je ne suis pas resté seul pour raconter mes blablabla avant de commencer à recevoir les invités la semaine prochaine. Non, je débute avec deux invités. J'ai deux invités en première partie d'émission et un invité en deuxième partie d'émission. J'ai en face de moi ici, j'ai avec moi en studio... Laurent Perrault, joli cœur, artiste contrebassiste, qui vient d'avoir une complicité sur un album faire pour titre Racine, avec nul autre que Zal Idrissa Sissoko. Voilà. Et en deuxième partie, à partir de 17h30, je vais recevoir Dramane Dinkes, qui est le président fondateur de l'Académie des Baobabs, 5e émission du prix littéraire de l'Afrique et de la diaspora, le samedi 22 novembre à 18h30, au rendez-vous. Un rendez-vous qui va se passer au Salon des Lieux de Montréal pour célébrer les talents de l'Afrique et de la diaspora sur le plan littéraire. Vous allez découvrir, il y a des gens qui ont été sélectionnés durant toute l'année 2024. Ce sont ces gens qui ont écrit, pas en 2025, mais 2024, qui seront là, voilà, qui ont été sélectionnés et qui vont 2 heures d'événement, 18h30 à 20h30. Alors tout de suite, je vais vous donner l'avant-goût de l'album Racine de Zal Idrissa Sissoko et de Laurent Perrault, Joli Cœur, avec... Quelle est Faba?
balola jola kele kele fa balanda mbambe baliya.
Là, vous venez d'écouter Kelefab. Voilà, vous avez reconnu la voix de Idrissa Sissoko. Cet album qui a été lancé d'ailleurs dernièrement, ça veut dire quoi? C'est hier, le 11, mardi.
Absolument.
Voilà. Bonjour Zal, bonjour Laurent. Comment s'est passé d'abord le lancement hier avant de...
Comment ça va mon frère?
Je vais bien, merci.
Content
toi.
De te voir, merci.
Comment s'est passé le lancement?
Super, on était super contents.
C'est malgré ce temps maudit là, de manger, les gens se sont déplacés.
La grève des transports.
Oui. Mais le public a répondu.
Exactement.
À la peine.
Absolument.
Oui. Oui. Franchement, on était comblés de joie.
Zal, Laurent, comment vous êtes connu? Expliquez-nous un peu d'abord avant de vous présenter. Comment vous êtes connu? Comment la rencontre s'est faite?
Je vais laisser le... comment il m'a trouvé?
C'est
moi qui ai trouvé Zal. Je connaissais Zal de réputation depuis longtemps.
Oui.
Puis quand j'ai fini mon baccalauréat en jazz à McGill, je faisais un récital de fin de baccalauréat, puis je voulais avoir de la cora pour ce concert-là. J'ai juste écrit à Zal sur Facebook, puis il a accepté de venir jouer au concert. Puis tout est parti de là, dans le fond. On a joué ce concert-là, ça a été la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait de la musique ensemble. Puis 4-5 mois plus tard, j'ai réécrit à Zal en lui disant que j'aimerais ça qu'on fasse un album avec la musique qu'on avait travaillée, puis d'autres musiques qu'on composerait les deux. Puis nous voici presque 4 ans plus tard.
La magie qui opère.
Et voilà.
Alors la voix que vous entendez, c'est la voix de Laurent Perrault, joli cœur, qui est contrebassiste, compositeur et improviseur montréalais. Il est actif depuis 2017. Corrigez-moi si c'est faux ce qu'il m'a envoyé comme bio. Formé auprès de maîtres connus au cégep de Saint-Laurent et à l'université McGill, et puis son inspiration dans les traditions musicales d'Afrique de l'Ouest et du Nord. De la kora de Toumani Diabaté au blues Touareg de Tinariwen, bien sûr, qu'on a eu la chance de voir ici à Montréal plusieurs fois, et explore aussi les liens entre ses influences et le jazz. Son jeu élégant et mélodique, caractérisé par une grande qualité sonore et une écoute active. En fait, un accompagnateur très apprécié, il a récemment collaboré à enregistrer avec des musiciens comme Zoé, Jean Delaurier, Noémie, Castanguet, Kaiser. Alors, comment tu as agi, comment tu as réagi quand il t'a contacté? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là?
Non, mais c'est des choses qui se font naturellement. Oui. Pour moi, c'est vraiment des choses qui se font naturellement.
Oui.
Pour moi, la musique a été toujours un tremplin pour moi de partager et rencontrer d'autres styles de musique, côtoyer d'autres personnes qui viennent d'autres cultures aussi. Et ça a été très, très naturel pour moi de répondre à son appel.
Oui, comme dirait l'autre, la musique est universelle. C'est un langage universel.
Exactement.
On n'a pas besoin forcément de même de comprendre les paroles de ce qu'on dit, c'est une question d'émotion.
Bien sûr.
Voilà. Ouais, ce que moi je ressens, ce n'est pas la même chose que tu ressens, ce n'est pas la même chose que Laurent ressent. C'est une question, voilà. Et puis on vit avec ça. Pour ceux qui... Bon, presque tous les Montréalais savent qui est Zal, Idrissa Sissoko, c'est une criot du Sénégal, il est habillé à Montréal depuis belle lurette, porteur de la tradition millénaire de sa lignée, bien sûr. Après, je lui ai demandé comment on se sent d'ailleurs de porter ce poids sous ses épaules là, de tennis, de la famille, voilà, un héritage quand même à travers le monde, comment on se sent, il va me répondre plus tard. Donc le premier griot Sissoko du 13e siècle, ça vient de loin, ta famille.
Absolument.
Ça vient de très loin. Il chante en balinqué en wolof, accompagné de sa kora 21 cordes. Écoutez, normalement la kora c'est le nombre de cordes standard. Mais il y a des artistes fantaisistes qui montent jusqu'à 30-40. Ouais, j'en ai vu. Corrige-moi si je me trompe.
Non, c'est vrai.
Ouais. Toi, tu es resté au nombre de cordes standard.
Oui.
Ou bien tu as une autre qui a 30 cordes.
Non.
Sa discographie qui témoigne de son ouverture au monde, de Silaba en 2008 à Famalé 2015, réalisée au Brésil avec des musiciens de calibre d'ailleurs, puis la Palabre 2017, mm-hmm. Oui, et puis la Source 2023 avec le Buntalo et l'album Cora Flamengo 2020, il y a 5 ans. Et puis aux côtés de la Caroline Plantier, et puis couronnée par la disque et le Canadian Folk Music Award, bravo. Et puis quoi encore là, figure incontournable des Nuits d'Afrique, on le voit souvent là-bas au festival Nuits d'Afrique. Zal continue de tisser les ponts entre ses racines sénégalaises et son univers montréalais. Alors, quelles sont les difficultés que chacun devra rencontrer avec l'autre en préparant cet album? Répondez comme vous voulez.
Mais franchement, il n'y a pas eu de difficulté parce que on a fait des petites rencontres les deux avant d'intégrer le piano et le drum.
Oui.
Et puis l'univers de la kora, il connaissait un tout petit peu jusqu'à où la kora pouvait dans certains accords. Et ça s'est fait vraiment très très naturellement. On n'a pas eu vraiment beaucoup de difficultés.
La complicité s'est installée tout de suite.
Exactement. Oui. J'arrivais avec une proposition, il regardait, il pouvait s'installer là-dedans. Oui, s'il y avait des petits trucs à changer, on les faisait. Et c'était vice versa. Alors ça s'est fait vraiment très très simple.
Mmh. Ouais. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, effectivement, il n'y a pas vraiment eu de grandes difficultés. Je pense que moi, comme compositeur, Le défi que j'ai eu, c'est que je suis habitué de composer avec des partitions composées sur papier ou composées à l'ordi. Puis ben pour ce projet-là, on a choisi d'y aller vraiment sans partition. Puis fait que moi, c'est désorientant pour moi de justement être entièrement par la parole puis par le jeu. Mais oui, c'est un défi personnel, mais ça, je trouve que ça mène la musique tellement plus loin.
Oui, et ça t'a permis de découvrir un autre modèle de composition, une autre manière de...
Une autre manière de composer puis de communiquer la musique, mais aussi c'est qu'on, d'une certaine façon, on enlève un intermédiaire, on enlève quelque chose qui était dans le chemin de se rendre directement à la musique. Plutôt que se parler par des numéros de mesure, se parler par « regarde sur la page, c'est là », on se parle directement dans ce qui se passe dans la musique, dans les sons.
Oui.
Donc c'est plus efficace sur certains points de vue.
Oui, on va écouter une deuxième pièce de l'album qui porte le titre de l'album, Racine. C'était le titre Racine de l'album Racine. Zal Sissoko, quelle est la place de la musique dans ta vie, toi?
Elle occupe 100% de ma vie parce que je vis de musique.
Tu n'attendais pas cette question, tu as regardé là, tu cherchais près, mais demande ça. Quelle est la place de la musique?
Chez moi, j'écoute de la musique, j'en joue. Oui. C'est ma vie, c'est mon travail, mm-hmm. c'est mon quotidien. Mm-hmm. Et à la maison aussi, j'adore faire à manger et puis écouter de la musique.
Oui.
C'est toute une vie, quoi.
Et Laurent?
Je pense que ça, c'est à peu près la même chose. Mm-hmm. Quand on décide de faire de la musique professionnellement, c'est un peu, ça devient un peu toute notre vie. Mm-hmm. Donc, on joue de la musique professionnellement. J'en fais professionnellement aussi. C'est oui. ce que j'étudie à la maîtrise en ce moment. Puis c'est ce que j'enseigne aussi. Mm-hmm. Puis c'est le genre de choses où est-ce qu'on devient tellement obsédé que, tu sais, dans nos temps libres, je me cherche un nouveau passe-temps, j'apprends un nouvel instrument.
T'sais. Oui. Bravo. Et pour ceux qui ne le savent pas, cet album est sur toutes les plateformes numériques depuis fin octobre. Hein. Vous mm-hmm. pouvez. N'allez pas chercher un album physique quelque part. Là. Aujourd'hui, là, on est dans le temps de la digitalisation. Allez-y là-bas sur toutes les plateformes numériques, là, chercher, télécharger l'album ou bien les pièces qui vous plaisent. Comme aujourd'hui, on achète à l'unité. Tout est possible. Avant, ce n'était pas possible. Il fallait avoir le physique, là, mais ce n'est plus le cas. Et puis, bon, ben, vous allez vous régaler, sincèrement, surtout pour ceux qui adorent le jazz. C'est très jazzy, cet album-là. Alors, est-ce que. Si je vous demande tous les deux, vous pouvez répondre comme vous voulez. Si c'était à refaire cette expérience que vous venez de vivre là. Si c'était à refaire.
Oh ben il n'y a pas de problème.
Ouais. Si refait pareil.
C'est sûr.
Pareil s'il vous plaît une autre fois.
C'est sûr. Moi je... Chaque chose commence par un. Alors on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est sûr que si c'est à refaire, c'est oui.
J'ai préféré ne pas demander qu'est-ce que vous avez prévu comme prochaine collaboration. Parce que les artistes, avant qu'ils ne finissent l'album sur lequel ils sont en train de déjà préparer le prochain.
Absolument.
Là, c'est typique quand tu poses la question. Toujours. Ah, le deuxième, il est déjà.
Ben, je pense que c'est une chose de. C'est les artistes, mais c'est aussi produire un album, ça prend tellement de temps.
Oui.
Que. On a enregistré l'album en février, mais on avait terminé de composer les pièces il y a 2 ans. Donc, on continue à travailler, ça continue à travailler dans notre tête pendant tout ce temps-là. Puis là, il faut continuer à composer, il faut continuer à pratiquer cet art-là. Donc, on arrive, puis on sort l'album, puis il y a déjà comme 1000 idées dans nos têtes. Là.
Ouais, ouais. Ça foisonne, quoi.
Ouais.
Ça veut dire que la collaboration ne s'arrête pas à Racine.
On espère.
Inch'Allah.
Ah voilà, je vois le visage.
Exactement.
Alors toi, Zal, ta carrière solo?
Non, ça va très bien. J'ai d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de pitonner sur mon téléphone. Je suis en train de préparer 2 tournées déjà. Un en collaboration encore, comme j'adore le faire, avec une fille, Séni Camara, qui joue de la kora, qui habite à Paris.
Oui.
Et je suis très content. On a déjà 10 de dates pour le mois de février. Mmh. On va tourner ici, représenter encore cet instrument, aller dans des coins reculés du Québec et de la Colombie-Britannique pour leur montrer cet instrument. Ouais.
À propos de l'extérieur dont tu parles, je prends la balle au bon en même temps, je vais parler du Brésil. Quel est ce lien? Qu'est-ce qui te lie au Brésil? Parce que tu es tout le temps au Brésil, toi.
Mais une très grande histoire avec le Brésil.
Le
Brésil, c'est comme ma deuxième maison.
Okay.
Et puis j'ai été là pour la première fois en 2010 où est-ce qu'on m'avait invité dans un festival que on appelle ça la nuit des griots.
Oui, la nuit des griots.
Ouais, tu arrives
à Rio ou bien
à Belo Horizonte.
Oui, à Belo Horizonte.
Au centre du Brésil.
Du Brésil. Hmm.
Et quand je suis parti là, c'était comme tous les grands conteurs brésiliens aussi, des musiciens, des producteurs, tout le monde était là. Mmh. Ils ont été fascinés par la kora. Alors, celui qui m'a amené là était un Sénégalais. Et il est Sénégalais. Mmh. Il a une maison de culture là, un restaurant sénégalais et tout ça. Puis voilà, à la fin de mon séjour, il y avait déjà comme 20 d'appels qui voulaient me booker déjà. Alors, il m'a dit, bon, est-ce que c'est possible? Je lui ai dit, non, c'est pas possible, il faut que je retourne au pays. Et le contact avec le Brésil s'est fait comme ça. Par la suite, Famalay est arrivé avec 2 très grands compositeurs brésiliens. On a fait cet album et puis ça a ouvert d'autres portes. Alors, Et le mois de novembre, chaque année, c'est le mois de l'histoire des Noirs au Brésil. Mmh. Ce qui fait que chaque novembre, je suis là pour faire une belle tournée.
Ah, tu pars quand?
Je pars le 19, là. Je passe par le Sénégal, par
exemple. Ok, d'accord.
Avant d'aller au Brésil.
Oh, ouais. Belle histoire d'amour entre toi et le Brésil. Merci à ce Sénégalais installé au Brésil.
Absolument.
Avec son centre de culture qui t'a permis d'avoir cette liaison, cette fusion avec le Brésil. Alors, Laurent, comment est ta carrière personnelle?
Je suis quand même à mes débuts, mais disons que pour l'âge que j'ai, je suis quand même heureux de où est-ce que j'en suis. Déjà de travailler avec Zal, mais de travailler avec différentes chanteuses, différents groupes, puis dans d'autres projets que j'ai en jazz. Je vis de la contrebasse. Je vis de la contrebasse par la performance, puis par l'enseignement. Puis je me considère chanceux de pouvoir dire ça à 26 ans.
Ok. Pour qu'on puisse écouter une troisième pièce de l'album ensemble, un dernier mot, Zal?
Ah ben, merci beaucoup encore d'être là. Puis j'invite les gens à continuer à aller écouter Racine et puis choisir les morceaux qu'ils aiment dans l'album pour les acheter en ligne, quoi.
Mm-hmm. Voilà. Merci. Laurent?
Absolument, allez écouter l'album partout. On a des albums physiques qui vont nous faire plaisir de vendre, puis il y a moyen de les acheter sur Bandcamp aussi. Mm. C'est la meilleure façon de nous encourager.
Merci à vous deux. Merci on dit beaucoup. Bon vent à Racine et bon vent à vos carrières, bah, merci et votre belle collaboration.
Merci.
Et on termine en beauté cette première partie de l'émission avec Zal Idrissa Sissoko et Laurent Perrault, Joli Cœur, avec pour titre Ensemble.
Thank you. Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas.
Pour ceux qui connaissent Kedjevara, bon, c'est pas lui là, c'est pas la version originale Kedjevara qui a sorti le tube. Ça fait mal. Repris, ce tube a été repris par Nelson Wandi Okafor, un Camerounais qui a pour nom d'artiste Neok. C'est la version gospel remix. C'est du lourd, hein. Ah, j'adore ça. Alors, il est en studio déjà avec moi, Dinkes, pour parler de la 5e édition du prix littéraire d'Afrique et de la diaspora. Ça va se passer le samedi 22 novembre à 18h30 au Salon du Livre de Montréal pour célébrer les talents de l'Afrique et de la diaspora. Et qui est Dinkes Draman? C'est le président fondateur de l'Académie des Baobabs. Voilà, il est là pour nous parler de cette 5e édition. On a là le privilège quand même de le recevoir chaque année pour venir parler de son événement. Absolument. Salut Dinkes.
Salut, salut, merci, salut, bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et voilà, c'est un plaisir d'être là chaque année pour entretenir le public montréalais de ce que devient le prix Baobab. Donc année après année, nous sommes présents avec une quarantaine, cette année, c'est une cinquantaine d'auteurs et d'écrivains, donc soumis les yeux à la bonne appréciation des prix littéraires d'Afrique.
Une cinquantaine.
À peu près.
Ok, oui. Alors.
Donc ça fait que, voilà, sur 50 romans que nous avons reçus cette année, le jury a travaillé en trois temps, le jury Baobab, ensuite le jury en Afrique, celui des professeurs des lettres modernes, et ensuite les élèves et étudiants de l'Afrique. Donc nous sommes revenus à établir une liste des finalistes. Donc, pour savoir qui va être gagnant, nous avons retenu 17 finalistes pour le Baobab.
17 finalistes, les chanceux.
Donc, oui, les chanceux, voilà. Donc, le gagnant, évidemment, sera connu le 22 novembre du côté du Salon du Livre de Montréal, le Palais des Congrès, à l'espace Radio-Canada. Donc, on aura pas mal d'auteurs qui seront présents. Et puis on va avoir l'occasion quand même de dévoiler le grand gagnant du Baobab cette année.
J'ai bien hâte, moi.
Ouais. Rappelons que le Baobab, depuis 5 ans, récompense le meilleur roman d'Afrique et de la diaspora sur une année. Donc l'année Baobab, c'est du juin à juin, juin 2025, juin 2024 à juin 2025. Et puis le prix est dévoilé en novembre. Disons qu'avant, on a eu déjà 4 gagnants prestigieux.
Les quatre premières éditions.
Oui, mmh. En 2021, on a eu comme gagnant Yasmina Kadra, algérien, qui est de l'Algérie. Et en 2022, on a connu Tierno Monenembo, de la Guinée. Et puis en 2023, Abdelaziz Baraka Sake, qui est du Soudan. Donc lui, il est plus arabophone et puis traduit en français. Et en 2024, on a eu Wole Soyinka, du Nigeria.
Du Nigeria, le garçon Inka, bien sûr.
Prix Nobel de littérature également pour son dernier roman.
Oui.
Donc, puis cette année, on a un gros point d'interrogation jusqu'au 22 novembre, à 18h30. Pour être plus précis, vers 19h50.
De toutes les façons, tu ne vas pas nous dire ça ici aujourd'hui, ça c'est clair. On n'a pas encore les résultats,
avec, c'est plus compliqué.
Alors, comment tu te sens? Tu es prêt, toi?
Oui, oui.
Toi et
oui,
l'équipe, je veux dire, oui, tous ceux qui sont oui, avec
oui,
toi.
Oui, physiquement, on est prêt. Et puis mentalement aussi, on est prêt. Il y a un changement cette année, c'est que l'événement se déroule exceptionnellement au Salon du Livre de Montréal et non à la Maison de l'Afrique comme les années précédentes.
Oui.
Parce que, voilà, avec Radio-Canada, nous avons une collaboration pour occuper le grand espace de Radio-Canada au cœur du Salon du Livre.
2 heures de temps, 18h30, 22h30.
Oui, on est arrivé à cette conclusion parce qu'à un moment donné, on avait constaté que les artistes, les écrivains étaient partagés, tiraillés entre la Maison de l'Afrique et le Salon du Livre qui s'est déroulé au même moment. Donc on a voulu mettre les énergies ensemble, les synergies ensemble, et puis fédérer tout ce monde au même endroit une bonne fois, voilà, afin que chacun puisse maximiser son temps. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve au cœur même du Salon du Livre de Montréal cette année.
L'espace Radio-Canada.
Et on pense que ça va être du bon.
Très belle première collaboration.
Oui, 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 nous apprécions cette collaboration. Il faut qu'il y a eu un déclic avec l'équipe de communication et de promotion marketing Radio-Canada. Donc, j'ai eu un coup de cœur, comme on dit, pour le prix littéraire d'Afrique de la diaspora. Parce que année après année, on a quoi, quarantaine à peu près de maisons d'édition à travers le monde, sur 3 continents, qui nous font confiance, qui nous soumettent les œuvres de leurs auteurs. Et puis, je pense que tout est parti de là. Et puis, Radio-Canada a eu un coup de cœur pour le prix littéraire d'Afrique et de la diaspora. Et puis, voilà, ils ont décidé d'embarquer avec nous dans l'aventure. Et nous sommes contents de les avoir parce que on espère que c'est quelque chose qui commence pour longtemps là.
Ah, c'est le début de la collaboration.
Absolument.
C'est venu pour rester, c'est pas venu pour repartir l'année prochaine. Non, 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 c'est venu pour rester. Ça va être une permanence quoi, au Salon de Radio-Canada durant chaque fois. C'est annuel de toutes les façons, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les jours.
Absolument.
C'est un événement annuel, donc ça permet, l'Académie permet de découvrir les écrivains originaires d'Afrique qui vivent à l'extérieur du continent et ceux qui vivent encore sur le continent.
Absolument, c'est ça. C'est un prix d'Afrique et
de la diaspora.
Parce que
si tu avais choisi seulement ceux qui vivaient à l'étranger ou bien ceux qui vivaient sur le continent, les autres allaient se plaindre.
Absolument. Alors, il faut mettre tout le monde dans le même panier parce que pour nous, l'Afrique et la diaspora, c'est large. La diaspora africaine, ça part du Japon à... je sais pas, au Brésil,
le monde entier, les Africains sont éparpillés un peu partout.
Exactement, donc on a cette année aussi des œuvres qui nous venaient des Antilles, de la Martinique, de la Jamaïque aussi, et de l'Amérique du Nord également, beaucoup de l'Europe et puis de l'Afrique également. Donc, et puis les histoires nous amènent aux quatre coins du monde. Il y a toutes les thématiques, il y a tous les gens, on parle de l'aventure, on parle des romans d'historique, des romans d'aventure. Et puis toutes les thématiques, il y a l'amour, il y a la haine, il y a le mépris, il y a la déprime, il y a les aventures qui sont à la fois historiques et puis des aventures policières. Donc il y a vraiment de tout dans...
C'est ce que j'aime dans la diversité littéraire.
Absolument.
Voilà. Les plumes ne traitent pas des mêmes sujets.
Exactement. Et puis voilà. L'Afrique est riche de tout cela. C'est une littérature plurielle en Afrique, que ce soit à la base écrit en arabe, en espagnol, en anglais, en français, en portugais, en anglais. Voilà, donc nous, on essaie de fédérer toutes ces écrits-là qui vont s'inspirer dans une langue locale. Ça peut être du Bambara traduit en français, ça peut être du Baoulé, de l'Agni, ça peut être du Yoruba, du Hausa. Voilà, donc il y a plusieurs sensibilités chez nos écrivains. Et puis c'est ce qu'on aime à l'Académie Baba. Et quand on prend tous ces livres-là qui sont encore là, quand on les lit, on est sous le charme, quoi. Et puis on s'est dit, si les lecteurs, ils sont chaque année conquis de découvrir autant d'histoires. C'est, ils s'avouent, ils sont pressés d'avoir les premiers livres entre les mains, année après année, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter en Afrique.
Il y a tellement d'histoires à raconter. Est-ce que cette année, il y a quelques écrivains qui sont finalistes, qui seront au Salon des Lieux de Radio-Canada?
Oui, il y a pas mal d'écrivains finalistes qui seront là. Ils seront là, je ne vais pas les citer. Mais
ah non, reste à deux.
Il y en a pas mal qui vont là. Je peux citer Aldia, il y en a qui viennent des États-Unis, voilà, de la Martinique aussi, il y en a qui viennent aussi de l'Europe, donc les écrivains seront là. Il y a pas mal d'écrivains qui vont être là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la belle brochette d'auteurs et de personnes gravitent autour du livre qui sont ici au Canada. Donc, d'où l'existence des tableaux d'honneur et des stylos d'honneur pour ces personnalités-là qui font vivre le livre Made in Africa ici même au Canada.
Oui. Alors, bravo à toi, à toute l'équipe. Je pense bien que de toutes les façons, cette collaboration avec Radio-Canada, ça va continuer même à donner de la visibilité encore plus pour ceux qui ne connaissaient pas l'événement, ceux qui sont à Montréal qui ne connaissaient pas l'événement. Et pourtant, ça se passait depuis, c'est la cinquième année à la Maison de l'Afrique, mais là, au Salon du Livre de Montréal. Ça va être quelque chose.
Ben, on espère, ouais. On espère toucher plus de monde. On espère faire découvrir la littérature d'Afrique et de la diaspora à plusieurs personnes. Ceux qui ne connaissaient pas, ça serait l'occasion pour eux de venir découvrir, de voir tout ce qu'il y a comme magie dans le livre africain.
Et toi, personnellement, en tant que fondateur de cet événement-là, comment tu te sens en train de voir le bébé en train de grandir comme ça?
Ben, ça passe tellement vite, 5 ans déjà. On s'imaginait pas être là quand on commençait avec des amis de mettre en place ce prix. On se posait la question où est-ce que ça allait nous amener. Et puis voilà, on est parti d'Abidjan pour la première édition en 2021. Et ensuite, on est revenu ici à Montréal pour pérenniser ce prix-là. Et puis on voit qu'année après année, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moyens que nous avons, on lâche pas, quoi. On n'abandonne pas. Et puis, il y a rien de tel que de faire quelque chose qui passionne. Donc, tous ceux qui sont autour de l'Académie des Babas sont des personnes de passion, de conviction. Et puis, cette passion-là nous porte, peu importe le manque de moyens, peu importe les difficultés, on est porté vraiment à quelque chose de plus grand que nous, et c'est la littérature. Et puis ça, on dit chapeau, quoi.
Ouais. Comment se porte en général la littérature africaine?
Ben, la littérature africaine va très bien, oui. Je dirais même très très bien, parce que quand on prend sur ces 5 dernières années, le livre africain a été primé un peu partout. On se rappelle qu'il y a moins de 5 ans aussi, le prix Nobel de littérature avait été accordé à un Africain de l'Est, et voilà, qui vit en Grande-Bretagne. On a aussi Mangoussa qui a eu aussi le Goncourt aussi. Donc, et puis on se rappelle encore l'année dernière, encore le Goncourt était attribué à un Algérien, oui. Daoud. Donc c'est pour te dire que le livre africain, il va bien et puis s'exporte très bien. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi on dit le livre africain, le livre tout court, mais comme on est un peu le parent pauvre de la littérature mondiale.
Ou bien on peut dire simplement, voilà, les littératures africaines.
Voilà, c'est ça. Donc on est obligé de continuer à donner de la visibilité à nos auteurs, continuer à les célébrer, parce que tout part de là. Quand on prend un pays comme la France, où on a à peu près de 100, presque 200 prix littéraires pour célébrer uniquement la littérature française, et je pense qu'en Afrique, on a un terrain qui est encore vierge. Voilà, on a besoin de célébrer ces auteurs-là, de souligner le travail qu'ils font, parce que c'est un héritage qui reste longtemps pour
Et ce qui est bien, c'est que tu ne t'es pas cantonné, c'est-à-dire que l'Académie Baoba ne s'est pas limitée seulement aux pays francophones, bien qu'on ait 14 pays francophones, c'est étendu sur les 54 pays du continent.
Absolument.
Voilà, la traduction se fait aussi en français,
bien sûr. Donc ça permet tous les auteurs, peu importe là où ils sont en Afrique et à travers le monde. Et puis pour nous, c'est ça qui fait la beauté de la littérature africaine.
On va écouter, faire une petite pause musicale et puis on revient. Je vais te demander, qu'est-ce que quand tu rencontres toi dans tes déplacements, quand tu rencontres la jeunesse qui s'intéresse à la littérature, qu'est-ce que tu leur dis? Musique d'abord. Oui.
« have a man to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing.
Merci à la générosité de tous ces artistes qui sont derrière ce remix de Purple Rain de Prince, Reggae Remix. Yeah. Mon invité est toujours avec moi, Draman Denkes, président fondateur de l'Académie des Baobabs. Là, il vient de me remettre la liste des personnalités invitées. Voilà, là, ça va être quelque chose, hein. Tout le monde sera là. Alors, avant la pièce musicale, je m'apprêtais à te demander, je te le demande maintenant, quand tu es dans tes déplacements, quand tu rencontres la jeunesse africaine qui s'intéresse à la littérature, quel genre de conseils tu leur donnes?
Ben pour nous, c'est une chance et puis c'est en même temps une grâce. Quoi. Avec tout ce qu'il y a comme moyen technologique de nos jours, c'est difficile de garder les jeunes au contact du livre. Mais voilà, mais là, on y arrive et puis il y a une nouvelle génération qui s'accroche. Je pense que le plus important, c'est le même message qu'on véhicule auprès des parents. C'est d'ici prendre tôt, de commencer tôt avec les enfants dès qu'ils sont au bas âge, leur donner les livres, les introduire aux livres et puis ne pas lâcher cette routine-là. Quoi. Dès qu'on réussit à à assimiler ça à l'enfant, c'est fini, c'est parti, il abandonne plus le livre, quoi. Je pense que le secret est là. Donc, il y a des parents qui ont gardé encore cette manière de faire là, de fonctionner, et puis ça marche, et puis nous, on est contents de voir. La dernière fois, j'étais au salon afro-canadien du livre à Ottawa. Et puis j'étais content de voir des mecs qui venaient avec des petits garçons qui voulaient toucher le livre, qui étaient passionnés du livre. Et puis nous, ça nous touche forcément. Et puis quel conseil on peut leur donner, c'est de continuer,
de persévérer. Et une manière modeste pour ses parents d'initier les enfants à la littérature.
Oui. Et puis on dit aux enfants et aux parents de continuer, et puis on dit aux enfants de ne pas lâcher, quoi. Parce que le livre, ça ouvre tellement de possibilités. On n'est pas toujours obligé de voyager, mais à travers un livre, on voyage forcément.
On fait le tour du monde sans billet d'avion.
Ça coûte tellement moins cher. On n'a pas besoin d'aller en Autriche ni en Allemagne
pour pouvoir
découvrir ce pays-là à travers les livres.
C'est ça.
Et puis voilà, quoi.
En gros, cet événement, c'est que quand tu fais tout le résumé, tu résumes tout depuis la première édition jusqu'à maintenant. Comment tu vois l'évolution? Ça n'a pas été facile aussi, hein, le grandissement, l'élèvement de cet événement.
Non, ça n'a pas du tout été facile parce que voilà, comme je disais, il faut toujours garder la foi à ce qu'on fait comme travail. Déjà la foi aussi au travail aussi des différents auteurs. Et puis c'est à partir de là, nous au début on se posait la question, c'est quoi le pedigree de la littérature?
Et malgré les embûches,
exactement,
vous avez persisté.
Ben oui, et puis on se disait aussi, c'est quoi la quantité de livres dont on peut disposer en une année en termes de littérature africaine? Mais depuis qu'on a plongé dans le grand bain, on s'est dit, mais ça s'arrête quand?
Oui.
C'est infini. Année après année, on voit 20 de livres qui sortent de partout, et puis on s'est dit, mais c'est incroyable. On a tellement d'histoires à côté, vous ne pouvez pas imaginer. Et on peut remonter jusqu'à la préhistoire, on peut remonter jusqu'à l'époque de la traite négrière, de l'esclavage et tout. On a tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter aux gens qu'on s'est dit, mais ça ne va jamais s'arrêter. Et puis c'est un puissant fond, la littérature africaine. Et puis depuis les années de l'indépendance, depuis les différents courants littéraires, que ce soit la négritude, que ce soit le courant contemporain aujourd'hui que nous avons un peu partout, donc la littérature, elle est africaine et surtout faite pour durer dans le temps. Je me rappelle, vous avez reçu un artiste tout à l'heure, juste avant moi, Zassago. Je pense qu'une fois que j'ai discuté avec lui, puis il m'a dit que lui, c'est un joueur de koura et que la koura lui a été transmise par ses ancêtres. Et que dans la koura, il n'a plus besoin de composer. Ils ont composé pour encore 500 ans, ses ancêtres. Tu as juste à puiser là-dedans. Et puis t'es resté inspiré. Voilà, donc c'est ce qu'on a envie de dire. Nous, moi, en tant qu'auteur, d'ailleurs, quand je dois écrire un roman, je me suis rendu compte que j'ai tellement lu, que de nos jours, je prends plus plaisir à écrire que de lire. Mais parce qu'il y a tellement à lire, tellement dans notre passé, dans la richesse de la littérature africaine, il suffit simplement d'ouvrir un livre d'un doyen de pouvoir écrire une dizaine d'autres.
C'est ça
la force de la littérature africaine.
La force de la littérature africaine. Alors, puisqu'on est presque à la fin de l'émission, un dernier mot à ceux qui nous écoutent pour venir à cette 5e édition au Salon du Livre de Montréal qui va se passer le samedi 22 à partir de 18h.
C'est là dit de venir tout simplement découvrir nos finalistes parce qu'on a des romans de très grande qualité. On a Lumière des Saint-Avol du Congo, Nation Cannibale de la RDC, Jacaranda du Rwanda, La Route qui mène au pays du Nigeria, Benoît Blouse du Togo, Ibn d'Algérie, L'Ombre et la Proie de la Côte d'Ivoire, écrit par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington. Le Testament de Charles du Cameroun, La Traversée périlleuse du Miroir en Algérie, Maloubousou de la Côte d'Ivoire, Jean Potterey le Feu du Maroc, Aménoré d'Algérie, Cœur d'Amande d'Algérie, Les Jours d'Après du Burkina Faso, Mawa de la Martinique, Enfermé dans le Temps de la Côte d'Ivoire et Les Enfants des Ruines du Mali.
Oui, d'ailleurs je vais en reparler ici le 19, le mercredi prochain de l'événement, parce que c'est quelques jours après. C'est bien fait que tu sois passé. Merci à toi.
Merci Fulgence, merci de m'avoir invité.
Merci
à Canal M de nous recevoir année après année.
Mais merci d'avoir eu le temps de passer nous parler de ça aussi. Hein. Merci à toi Mathieu. Oui, merci à Zald Idrissa Sissoko et à Laurent
Perrault
Jolicoeur. Merci bien, Laurent Perrault Jolicoeur. Ils ont fait un album ensemble, Racine. On termine en beauté avec qui? Une Ivoirienne du nom de Sly, Ayoka. Merci à nos fidèles auditeurs. Ouais, merci. Alors, je suis de retour. Hein. On est là ensemble jusqu'à l'année prochaine. Allez, sur ce, je vous dis ciao.
In your body, talk about it, and in your body, me on your equal is your bow. It is the only day you bring your quo, let her quo. Man, your pocket, and in only can you bring it to your pain, and in only can you bring it to your.
Ma, ayoka yenwo, nyu yapo.